France Culture.
La science CQFD, Natacha Trioux.
Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un physicien reconnu pour ses travaux à la frontière de la physique des particules, de la cosmologie et de l'astrophysique. Gabriel Chardin est notre invité. La cosmologie est à la croisée des chemins et le modèle cosmologique standard est en crise. Il est vrai qu'entre l'énergie noire et la matière noire qui échappent encore à nos détecteurs, 95% de l'univers reste invisible. Le physicien élabore donc un modèle alternatif pour expliquer l'histoire de l'univers sans zone d'ombre. Il tisse des liens entre la physique des particules et la thermodynamique et propose de remplacer l'énergie noire et la matière noire au profit de l'antimatière. Et comme chaque particule a son antiparticule, peut-être que la gravité pourrait aussi opérer différemment avec l'antigravité. Gabriel Chardin, l'antimatière à penser. Gabriel Chardin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes physicien et directeur de recherche au CNRS, ancien président du comité des très grandes infrastructures de recherche du CNRS de 2014 à 2020. Vous travaillez au sein du laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Cité et vous êtes médaille d'argent du CNRS 2007. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci d'être là avec nous en direct et merci à vous d'être là en direct ou en podcast. Vous pouvez nous suivre sur votre appli préférée, bien sûr sur l'appli Radio France. Vous pouvez également nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous toutes nos sources et sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment vous êtes-vous orienté vers la recherche de la matière noire et quelles expériences avez-vous développées? Comment avez-vous conçu le modèle Dirac-Milne et qu'est-ce que ce modèle implique? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et on se place sous les auspices de ce cher Hubert Reeves.
Nous savons maintenant que l'univers héberge une mystérieuse substance nommée énergie sombre. Cette substance, qui compose 70% de la densité cosmique, se manifeste en accélérant le mouvement d'éloignement des galaxies entre elles. Son existence a été découverte il y a à peine une dizaine d'années par les observations de supernovae dans les galaxies lointaines, observations qui ont permis la mesure des distances de ces galaxies et montré que ces galaxies s'éloignent de plus en plus vite. De cette énergie, nous ne savons qu'une chose. Elle se comporte comme un champ de force exerçant une influence répulsive sur les astres. C'est en effet comme cela que nous en avons découvert l'existence. Mais quelle peut bien en être la nature ? Aujourd'hui, nous en sommes encore réduits à formuler des hypothèses. Disons d'abord que la théorie de la relativité d'Einstein, 1917, prévoyait l'existence hypothétique d'une telle substance. Au-delà de la matière capable d'exercer une force d'attraction, la gravitation universelle de Newton, les pommes tombent, il pouvait exister, sans violer les lois de la relativité, une matière capable d'exercer une force répulsive. Mais à cette époque, rien ne prouvait que cette composante, à laquelle Einstein a donné le nom de « constante cosmologique », n'était pas une pure vue de l'esprit. Rien ne prouvait qu'elle existait vraiment.
Voilà la voix de Hubert Reeves dans l'émission « Dialogue du ciel et de la vie » diffusée sur France Culture en 2005. Gabriel Chardin, votre réaction à l'écoute de cette archive et des mots de Hubert Reeves qui parlent de cette mystérieuse substance?
20 ans après, à vrai dire, on n'a pas énormément avancé. On a beaucoup avancé sur la qualité et le volume des données, mais on est toujours autant dans le noir, si je puis dire, pour l'énergie noire. Quant à la nature de cette composante. Donc Hubert a assez bien résumé la situation. J'emploierai pas le terme de matière, comme il le dit, pour l'énergie noire, parce que, en tout cas dans le modèle standard, c'est plutôt une énergie du vide, au sens d'Einstein.
Il parle également d'influence répulsive et ça fait partie en effet des deux inconnus qui font partie de notre modèle cosmologique.
Donc ça c'est en 98, donc Hubert parle 7 ans après la découverte ou là en tout cas l'annonce des résultats des observations des supernovae. On a une bonne indication qui s'est conservée à peu près jusqu'à aujourd'hui de qu'il y existe une composante majeure, plus de la moitié, donc 70% à peu près, d'une composante répulsive si on l'interprète comme une constante cosmologique, c'est-à-dire une sorte d'énergie du vide diffuse partout dans l'univers, étalée, si vous voulez. Et donc la question est, est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que, parce que Einstein, qui avait proposé ça pour des raisons assez philosophiques, c'est-à-dire essayer de garder un univers éternel, pour lui, pour des raisons semi-religieuses, hein, je pense qu'il était vraiment religieux au sens habituel, mais il aurait aimé un univers éternel, et il avait essayé, pour stabiliser l'univers, expansion ou réeffondrement, cette composante répulsive. Et puis donc, il s'aperçoit, ou on lui dit aussi, que ça ne marche pas. C'est-à-dire l'univers reste instable et doit évoluer même avec cette composante diffuse. Et donc, il l'abandonne comme en la traitant de sa plus grande erreur. Alors, on peut discuter des termes exacts qu'il a employés, mais a priori, c'est... il avait vraiment abandonné la référence à cette composante.
En tout cas, en 1998, quand on fait cette découverte de l'expansion de l'univers de façon accélérée, vous, à cette époque, c'est une découverte qui vous marque. Vous êtes à ce moment-là en train de rechercher justement des traces de cette mystérieuse matière sombre. Et c'est cette découverte, 1998, qui va marquer un tournant dans vos recherches.
Donc, en fait, moi, depuis le milieu des années 80, et au départ sans aucun support, expérimental, je m'étais interrogé sur la gravité de l'antimatière, et notamment donc ce qu'on pourrait appeler la gravité répulsive de l'antimatière. Après, la question de savoir si l'antimatière s'attire ou se repousse elle-même, ça, c'est une question très difficile expérimentalement, et... Le modèle dont on va parler, le modèle de Dirac-Milne, y répond, mais les gens ne sont pas nécessairement d'accord là-dessus. Donc, au départ, dans les années 30, Fritz Zwicky, qui est un physicien qui était aux États-Unis à l'époque, découvre qu'il y a l'air de manquer énormément de matière par rapport à la matière ordinaire. C'était un facteur de l'ordre de 100. Un facteur gigantesque. Mais l'époque est plutôt à la découverte de l'expansion de l'univers sans son accélération, avec la loi de Hubble, une discussion sur la réalité ou pas, et donc petit à petit les gens se convainquent de cette expansion. Et on oublie jusqu'au début des années 70 cette problématique qui revient, et qui se précise avec les travaux en particulier de Vera Rubin et d'un grand nombre d'autres gens, notamment en France. Donc, vers le milieu des années 80, on décide de lancer des expériences pour en avoir le cœur net et essayer de voir quelle est la matière non ordinaire, hein, la matière qui n'est pas la matière qui compose nos objets, des protons et les neutrons. Essayer de la détecter. Est-ce que ça pourrait être de la matière quand même ordinaire, mais cachée dans des astres très très peu lumineux, parce qu'il manque clairement de la matière visible dans nos galaxies, ou est-ce que c'est carrément autre chose ? Et donc, en 87 à peu près, nous lançons avec Michel Spiro deux groupes. Un groupe sur la recherche de ce qu'on appelle les machos, les massive compact halo objects, c'est-à-dire des étoiles sombres, hein, ou très peu rayonnantes. Et un groupe pour détecter ce qu'on appelle les WIMS, c'est les mauviettes, un peu un jeu de mots entre macho et mauviette, qui seraient des particules interagissant très faiblement avec la matière ordinaire, et on le découvre très rapidement, des particules complètement différentes, échappant au modèle standard.
Voilà, les machos et les wimps, qui sont des candidats fréquemment évoqués pour justement justifier, découvrir, débusquer cette matière sombre. À la sortie de votre thèse, Gabriel Chardin, vous étudiez donc cette... Vous partez vous aussi à la recherche de cette matière sombre, et vous mettez en place un peu plus tard l'expérience Edelweissen, entre 1993 et 2000. Ça, ces détecteurs cherchaient justement à capter quoi comme signature de matière noire.
Donc si on imagine, on peut se représenter ça comme des neutrinos, c'est-à-dire des particules interagissant très, très faiblement avec la matière. Donc celle-là existe, elle traverse les neutrinos de l'énergie des particules piégées dans notre galaxie, traverse des centaines de milliers de fois la Terre sans interagir. Donc les interactions sont remarquablement faibles. Sauf qu'on sait que même les neutrinos interagissent encore trop fortement pour être la solution. Du coup, donc, on essaye de détecter des particules du type des neutrinos qui auraient une masse assez forte et de repérer leurs interactions. S'ils tapent sur un électron, l'électron est tellement léger par rapport à eux que ça fait essentiellement rien. On n'est pas capable de le détecter. Si ça tape sur un noyau, c'est plus accordé, c'est plus résonnant. Et du coup, on va avoir une énergie faible, mais par contre, on va avoir de quoi détecter à basse énergie les interactions. Ceci dit, chaque seconde qui passe, 100 rayons cosmiques traversent à peu près notre corps. Donc on va se mettre dans un laboratoire souterrain. Pour nous, le laboratoire souterrain de Modane, qui réduit d'un bon facteur 2 millions le flux de rayonnement cosmique. Okay. Et on est les premiers à faire ça.
1700 mètres sous la montagne, sous le laboratoire.
Oui, ça dépend des directions, mais oui, c'est de cet ordre-là. Et donc c'est énorme, ça réduit... On a plus que de l'ordre d'un muon par surface d'être humain et par jour, hein, donc c'est contre 100 par seconde. Donc vous voyez que c'est très très faible. Et avec cet avantage, on arrive entre 2000 et 2004 à être en tête de la compétition mondiale de recherche qui est très compétitive. Avec en particulier nos compétiteurs les plus sérieux, c'était un groupe américain basé à Berkeley et à Stanford. Et voilà, donc on devient connu sur cette question.
Et c'est d'ailleurs pour cette expérience que vous obtenez la médaille d'argent du CNRS en 2007.
Oui, c'est un effort collectif. Il faut citer la cinquantaine de personnes qui ont travaillé avec moi sur cette question très difficile. Et donc... En 2000, on annonce nos résultats qui sont une avancée assez forte, c'est-à-dire comme les Américains, on cherchait à rejeter le bruit de fond radioactif qui est toujours présent dans les détecteurs et à pouvoir l'identifier, à pouvoir séparer les interactions des WIMPs ou des neutrinos massifs par rapport au bruit de fond radioactif ambiant qui est là tout le temps... dans les matériaux et à cause du rayonnement cosmique. Et donc ça commence à marcher très bien et ça a pas mal d'écho. Mais à la même conférence de 2000, il y a la confirmation de quelque chose qui paraissait un petit peu bizarre au début, qui est donc cette fameuse gravité répulsive, annoncée 2 ans avant à peu près par 2 groupes américains. Et donc je commence à me dire à ce moment-là que peut-être qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire que cette gravité répulsive qui apparaît comme une composante majeure de notre univers pourrait être ce à quoi je pensais déjà, c'est-à-dire la gravité répulsive entre matière et antimatière.
Et c'est à ce moment-là, en effet, en plus les résultats de l'expérience Edelweiss stagnent, on n'a aucune détection concluante à partir de 2005, et c'est à ce moment-là que vous commencez donc à douter de l'intérêt de la recherche sur les matières noires, et vous vous intéressez donc à cette énergie sombre, et cette, ou en tout cas plus exactement, cette gravité répulsive.
Alors, soyons d'accord, hein, pense que même encore aujourd'hui, il faut qu'il reste quelques expériences, même si, effectivement, ça devient... à la fois tellement difficile et il y a essentiellement aucune indication de ces interactions qu'il est assez probable que les WIMPs tels qu'on les cherchait ne sont pas là. Mais moi, ça fait depuis 1987 que je travaille sur cette question à l'issue de ma thèse. Et donc, Ça me paraît le bon moment pour prendre de la distance vis-à-vis de la recherche de la matière noire et commencer à réfléchir avec un étudiant sur la cosmologie. C'est-à-dire, quelque part, les supernovae me donnent l'idée de ne regarder pas ça du point de vue théorique de la gravité de l'antimatière, qui était ce que j'avais fait à la fin des années 80, au début des années 90. Problème épouvantable de difficulté, même si on a des idées de là où est la solution. Et de regarder quelles vont être les conséquences pour un univers qui a autant de masse positive que de masse négative. Au sens de la relativité générale, essentiellement, même si les gens ne se rendent pas compte que, en fait, ça pourrait être présent dans la relativité d'Einstein.
Voilà, en 2006, vous commencez à étudier avec Aurélien Benoît-Lévy ce scénario. Quelles seraient les implications cosmologiques avec des antiparticules qui ont des masses négatives? Alors, dans quelle mesure votre modèle de Dirac-Milne propose des solutions intéressantes en cosmologie? On y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec le physicien Gabriel Chardin. Nous parlons de matière noire, d'énergie sombre, d'antimatière et de modèles cosmologiques. Gabriel Chardin, vous avez développé donc un modèle alternatif au modèle standard pour expliquer l'évolution et la structure de l'univers, mais en incluant l'antimatière. Alors pour ça, pour bien saisir ce modèle, il faut d'abord bien comprendre ce qu'est l'antimatière. Que sont ces particules, Gabriel Chardin ? Ces antiparticules.
Donc à la fin des années 20, au début des années 30, Paul Dirac, qui aura le prix Nobel en particulier pour ça, se rend compte que quand on cherche à rendre à être compatible avec la relativité, l'équation de base de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, on tombe sur un deuxième monde. C'est-à-dire que face au monde de la matière, avec ses particules de masse positive, on a aussi ce qu'il va appeler l'antimatière, qui est des masses négatives et des énergies négatives. Alors, au début, tout le monde pousse des cris d'orfraie, en disant c'est complètement ridicule, les masses négatives, y compris quand Paul Dirac vient au Collège de France, il se fait un peu ridiculiser. Mais heureusement, la masse inertielle, c'est plus facile à mesurer que la masse gravitationnelle. Et donc, très rapidement, Carl Anderson détecte dans les rayons cosmiques un anti-électron, c'est-à-dire plutôt un électron qui a la même masse au sens inertiel, hein, sans qu'on sache sa masse gravitationnelle, et la charge opposée. Donc, en gros, même si c'est imprécis au départ et qu'il n'est pas tout à fait sûr de la charge et de la masse de l'électron, hein, pour des raisons historiques, je simplifie un peu les choses, mais très rapidement, à partir de la découverte d'Anderson, les gens sont d'accord sur le fait qu'il doit y avoir ce deuxième monde. Et observer l'ensemble des antiparticules, ça c'est compliqué, l'antiproton et l'antineutron vont arriver bien après, dans les années 50, mais disons, on sait qu'il existe ce deuxième monde qui s'annihile de façon très violente dès lors que matière et antimatière se rencontrent.
C'est ça, 1932, Carl Anderson vient de mettre la main sur le positron, l'antiparticule donc de l'électron. Par la suite, les physiciens ont découvert l'antiproton, bien d'autres antiparticules. Gabriel Chardin, ces miroirs de la matière, ces antiparticules, est-ce qu'elles ont des différences avec justement nos particules ? Est-ce qu'elles sont un miroir parfait ?
Alors ça, c'est une question difficile à laquelle on ne sait pas totalement répondre. Le miroir semble presque parfait, au moins, peut-être même parfait, et sauf à l'exception de ce qu'on ne sait pas, parce que donc il y a un théorème auquel les physiciens croient assez dur comme fer, sauf qu'il se démontre pas pour la gravitation. C'est le théorème CPT pour charge parité temps. C'est-à-dire quand on renverse, en gros, le temps et l'énergie, c'est deux choses liées. Hein. Si on renverse le temps, on renverse aussi l'énergie. Parité, c'est le miroir, regarder la matière dans le miroir. Et puis la charge, donc chaque antiparticule est à l'opposé de la charge. Donc ça, sur la charge, on pense que c'est absolument vrai. Sur l'ensemble des trois, c'est un petit peu moins clair. Et donc, immense surprise en 1964, avec notamment une contribution importante de mon ancien directeur de laboratoire, René Turlet. On découvre une toute petite différence de comportement entre matière et antimatière, ce qu'on appelle la violation de la symétrie CP, charge-parité. Cette toute petite différence de comportement pourrait être due à la gravité, c'est ce que j'ai développé dès le début des années 90, et qui a été repris récemment par un physicien de l'Université Paris-Saclay avec lequel j'avais collaboré à l'époque, qui s'appelle Jean-Marcel Rax, qui a refait des choses nettement plus précises que ce qu'on avait fait à l'époque. Et ça a l'air de très très bien marcher. Donc dans la théorie standard, cette théorie est possible à incorporer, mais par contre, elle ne sert pas du tout à expliquer, en tout cas on ne voit absolument pas la façon d'expliquer la prédominance de matière par rapport à l'antimatière, parce qu'il semble qu'il ne reste pas du tout d'antimatière dans notre environnement.
Où est passé l'antimatière, en effet, oui, c'est un des grands problèmes de la cosmologie actuelle. Mais alors comment justement une antiparticule se comporte-t-elle dans un champ gravitationnel? Est-ce qu'elle tombe exactement comme une particule de matière? Ça c'est une question qui est aussi au cœur de nos réacteurs qui étudient ces propriétés-là également.
Alors, si on fait un sondage, je pense que la plupart des physiciens vont dire oh « oui, elle tombe de la même façon », d'autant qu'en septembre 2023, il y a trois expériences au CERN hein, qui regroupent à peu près au total 200 physiciens et ingénieurs qui cherchent à faire cette mesure. Donc c'est quand même un programme qui est beaucoup plus petit que le grand anneau de 27 km à LHC, mais qui est un programme assez majeur du CERN. La première expérience à avoir atteint à peu près la sensibilité requise, l'expérience AlphaG, a annoncé que la matière, en gros, tombait à peu près l'antimatière tombait à peu près comme la matière.
Qu'elle n'antigravite pas.
Alors, ça m'a pas mal abattu pendant quelques mois à l'annonce de ces résultats, et j'ai regardé un petit peu mieux avec leur aide d'ailleurs leurs résultats, et c'est quand même beaucoup moins clair que ce qu'ils annoncent, parce que en fait il y a des choses dans leur expérience qu'ils ne comprennent pas sur des choses assez majeures, c'est-à-dire la façon dont ils perdent les atomes dans leur piège. C'est très très difficile de peser les particules, et il faut qu'elles soient neutres, et dès qu'elles ont la charge, les champs électriques sont beaucoup trop grands par rapport à la gravitation. Et donc, il faut trouver un moyen d'arriver à les peser.
L'expérience AlphaG menée au CERN en 2023. Pour tout comprendre de cette expérience, on vient de vous publier le lien de notre podcast, l'épisode Antimatière, anatomie d'une chute. Et en effet, depuis 2023, ils n'ont pas confirmé leur résultat, ce qui n'est pas très forcément bon signe. Alors par rapport justement, là on parle du modèle standard, mais dans certaines théories qui voudraient dépasser le modèle standard, les antiparticules tomberaient à une vitesse différente des particules, voire tomberaient vers le haut. Gabriel Chardin.
Alors, ce qu'on appelle la supergravité, par exemple, la supersymétrie, il se peut, et en général, dans le cas général, il peut y avoir une différence entre matière et antimatière, mais pas au niveau, je n'attends absolument pas ça au niveau de l'antigravité. En fait, moi, ce que je dis, même si on a du mal à trouver un modèle relativiste qui correspond à ça, c'est que si on regarde le système qui existe dans la nature que considérait Paul Dirac, et c'est pour ça qu'on a appelé après l'univers de Dirac-Milne, un peu en hommage à Paul Dirac, le cas du système que l'on connaît, c'est-à-dire des électrons et d'un électron manquant, c'est-à-dire un trou avec moins un électron, quoi. C'est-à-dire l'électron, au lieu de remplir et de constituer le vide, il n'est pas là. Ce système-là, dans un champ de gravitation, les électrons tombent et les trous remontent. Voilà. Donc, en fait, l'univers de Dirac-Milne, c'est un modèle qui ressemble exactement, quasiment. Et à partir du moment où on a un exemple physique que l'on connaît, où particules et pseudo-antiparticules, hein, parce qu'un trou, il va s'annihiler avec l'électron quand il va le rencontrer dans un semi-conducteur comme du germanium ou du silicium. C'est le modèle qu'on utilise. Et après, on peut essayer aussi de le justifier dans le cadre de la relativité générale, si on regarde de façon un peu moins naïve, non pas seulement la gravitation, mais le lien entre la gravitation et les autres interactions. Mais là, je pense qu'on va sortir du cadre de cette émission.
En tout cas, dans le cadre de cette émission, par rapport à cette notion, cette idée d'antigravité, c'est une idée que vous explorez, que vous nous racontez dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS, Antimatière et gravité. Je vous propose une lecture. J'explique donc à John Bell que l'antigravité ne fait rien de très méchant. Au contraire, d'une certaine façon, elle permet de restaurer le principe d'équivalence. En effet, la théorie de la relativité générale, qui est une théorie classique, non quantique, dit qu'on ne devrait pas pouvoir faire la différence entre une accélération et un champ de gravitation dès lors que l'on est situé au-dessus du plancher terrestre. Le champ gravitationnel de la Terre, planète de matière normale d'une densité de quelques grammes par centimètre cube, et celui d'un trou noir de même masse sont en effet indistinguables. Résumons. D'après la théorie actuelle, un observateur immobile à la surface d'un corps au bord de s'effondrer en trou noir ne détecte aucun rayonnement, alors même qu'il est accéléré violemment en raison du champ de gravité très fort. Mais dès que le corps est devenu un trou noir, le même observateur peut voir le rayonnement prédit par Hawking. Cependant, si l'on suppose l'antigravité, alors le principe d'équivalence est respecté et le rayonnement existe dans les deux cas, pour un corps au bord de l'effondrement ou un trou noir de même masse. Il semble donc qu'il puisse y avoir un rapport étroit entre l'antigravité de l'antimatière et l'effet accepté de rayonnement de Hawking. Je dis donc à Bell que, en plus du tenseur de Riemann, on peut également mesurer G dès que l'on prend en compte les effets quantiques qui font rayonner les systèmes gravitationnels et que, paradoxalement, avec l'antigravité, on rétablit le principe d'équivalence. À ma grande surprise, sa réponse fut « I don't buy this », je n'y crois pas. Je lui demande pourquoi et s'il en est sûr. Et cet immense physicien me répond « Il y a si peu de choses dont je sois sûr. Je ne suis donc pas complètement sûr de ça, mais a priori, pour la théorie standard, il faut un horizon pour qu'il y ait un rayonnement. La Terre n'en a pas, et il ne doit donc pas y avoir de rayonnement de Hawking. » Voilà, John Bell, le célèbre physicien à l'origine des inégalités de Bell. Ensemble, Gabriel Chardin, vous échangez donc sur cette hypothèse. Si on pousse le principe d'équivalence jusqu'au bout, peut-être qu'on pourrait impliquer une forme d'antigravité.
Alors, c'est une façon très provocatrice que j'avais de discuter de ce point avec John Bell. Mais en gros, le message que j'avais, c'était il y a déjà un point où, quelque part, on viole le principe d'équivalence dans son domaine semi-classique ou quantique. Et ça n'a pas l'air de nous gêner. Et si on voulait le restaurer, c'est-à-dire jusqu'à quel point peut-on accepter une différence de champ d'accélération gravitationnelle entre matière et antimatière pour faire, dans tous les cas, le rayonnement que l'on voit dès lors qu'on a un corps accéléré ou un champ gravitationnel dans le cas d'un trou noir. Et c'est, très curieusement, l'antigravité.
Votre modèle de Dirac-Milne repose donc sur de l'antimatière à masse négative. Qu'est-ce que ça signifie, un objet de masse négative, et qui, là encore, semble a priori incompatible avec la relativité générale d'Einstein?
Alors, en fait, assez tôt, les gens regardaient notamment Bondi dans les années 50. S'est intéressé à qu'est-ce que ça veut dire une masse négative. Si on regarde uniquement la gravitation, ces objets plus 1 kg ou moins 1 kg, ça tombe toujours dans le champ de la Terre. Sauf que dès lors qu'on le regarde également des choses plus réalistes, c'est-à-dire avec les champs électriques et électromagnétiques qui sont créés par notamment la polarisation créée par la gravitation, on a en général des effets qui sont assez différents. Par exemple, si on cherche à peser un électron ou un positron, il y a des forces nécessairement de correction de polarisation gravitationnelle, hein, qui est simplement parce que les objets n'ont pas le même poids dans le champ de gravitation. Et ça, ça crée des champs électriques qui sont directement liés à la gravitation et qui empêchent de mesurer la gravitation de façon isolée. Donc c'est ça qu'il faut regarder, et en fait on a mis beaucoup de temps avant de trouver la bonne définition, celle qui avait l'air de bien marcher. Au départ on utilisait juste la définition que à grande distance, quand on met autant de matière que d'antimatière, on voit un univers vide. Voilà, c'était ça notre définition. On regardait pas l'attraction et la répulsion des deux composantes entre elles. Mais en 2018, alors que je commençais à m'éloigner un petit peu des grandes infrastructures de recherche, un physicien franco-italien, Giovanni Manfredi, est venu me voir en me disant « On pourrait faire des simulations. Nous, on est spécialistes des simulations. On pourrait regarder un peu ce que ça donne dans les structures, ton modèle, et puis essayer de le justifier. » Et donc, on a commencé à regarder et à classer un peu tous les cas, toutes les définitions de masse, masse inertielle, masse gravitationnelle qui peut être active ou passive, au sens newtonien. Essayer de trouver, parmi les 8 combinaisons possibles de signes, laquelle correspondrait à ce qu'on veut faire, ce qui va marcher cosmologiquement. Et en fait, la réponse est très curieuse, c'est aucune des 8 qui marche. Celle qui marche, c'est le système de Dirac, c'est-à-dire le système électron-trou, qui ne peut pas être décrit par le formalisme newtonien. On est toujours persuadé dans notre tête que la gravité d'Einstein, c'est très très proche de la gravité de Newton. Ça la perfectionne et ça la rend beaucoup plus exacte d'un point de vue théorique. Mais on va toujours rester proche du formalisme newtonien. Et ce qu'on découvre là, c'est que ça n'est pas vrai dans le cas des masses négatives. Hypothèse que étudiera aussi Adam Riess avant de la repousser extrêmement rapidement. Il est un des 3 prix Nobel de découvrant l'énergie noire. Il refuse juste dès le départ la notion de masse négative qui, à mon avis, il faut étudier et éliminer proprement avant de l'éliminer définitivement.
Sur ces notions de masse négative, vous venez de décrire comment se comporte le comportement gravitationnel de ces particules de Bondy, un comportement assez surprenant. Vous vous posez également une question, hein, c'est que se passe-t-il si matière et antimatière se repoussent et si l'antimatière se repousse aussi elle-même ?
C'est-à-dire, là, donc, c'est la matière masse négative au sens de la relativité générale. Hein. Bondy, c'est ça qu'il utilise. Après, Bondy n'étudie pas les forces de polarisation électromagnétique. Mais par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les choses très surprenantes, voire considérées comme impossibles dans les masses de Bondy, c'est-à-dire que si on met l'attraction gravitationnelle entre 1 kg de matière et moins 1 kg de matière, ça démarre, les deux démarrent en se suivant l'un l'autre à peu près à la même distance et du côté de la masse positive. C'est-à-dire que là, ils vont se repousser l'un l'autre de face. Mais ça, ce qui a l'air d'être complètement débile et impossible, eh bien, ça se voit aussi avec des masses seulement positives. Et c'est ce que je découvre en 2006 avec mon étudiant Aurélien Benoît-Lévy, quand on va voir le spécialiste des grandes simulations, Ramsès, Romain Tessier.
Alors, dans quelle mesure l'existence de l'antimatière avec une masse négative pourrait résoudre de nombreux problèmes en cosmologie ? Restez avec nous. Thank you. Expansion de Lonnie Liston Smith en direct sur France Culture, car nous parlons de l'expansion accélérée de l'univers, mais pas seulement. On en parle avec notre invité du jour, Gabriel Chardin, physicien, directeur de recherche au CNRS, ancien président du comité des TGIR du CNRS de 2014 à 2020, qui travaille actuellement au laboratoire Astroparticules et Cosmologie de l'Université Paris-Cité et qui est médaille d'argent du CNRS 2007. On vient de voir que vous avez présenté donc un modèle, le modèle de Dirac-Milne, où matière et antimatière coexistent en proportion égale et dans lequel les particules d'antimatière antigravitent et se repoussent également entre elles. Avec ce modèle, on n'a plus besoin de matière noire.
Alors en fait, on va commencer à dans notre étude avec Aurélien Benoît Lévy, de façon moins ambitieuse au départ, et on va reprendre un peu, quand on veut bâtir un univers, c'est-à-dire au sens cosmologique, il y a énormément de tests à respecter. Il faut qu'on soit compatible avec l'âge de l'univers, on va dire en gros 14 milliards d'années, ou en tout cas ni trop faible ni trop grand par rapport à ça. Il faut qu'on respecte plein de choses, la fabrication des éléments légers, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, la synthèse des noyaux dont était un spécialiste Hubert Reeves. Et il faut des tas de choses. Il faut respecter ce qu'on appelle la distance de luminosité des supernovae, c'est-à-dire en fonction de leur décalage vers le rouge, combien de lumière elles parviennent à nous envoyer. Le prix Nobel de 2011 lié à la découverte de 98. Et donc, il y a une collection de tests très importants. Et on va systématiquement les reprendre avec Aurélien pour regarder si ça marche ou pas. Et de façon très curieuse, ça marche très bien. La matière noire elle-même, ça n'est que dans une publication de 2021, donc pendant le Covid, donc qui passait relativement inaperçu, malheureusement, à cause de ça, qu'on s'aperçoit que la phénoménologie de matière noire, qui nous donne l'impression qu'il y a plein de matières invisibles qui se situent dans l'enceinte des galaxies et que l'on ne voit pas, est bien expliquée par le modèle. Donc, en 2006, on regarde, je ne sais pas quel est le premier test que l'on regarde, mais probablement c'est l'âge. Et l'âge, ça marche remarquablement bien. Entre un univers qui décélère à mort au début et qui va accélérer à peu près maintenant, depuis quelques milliards d'années, comme le modèle standard, et l'univers de Dirac-Milne qui ne décélère ni n'accélère jamais, qui est juste à la frontière entre les deux en permanence, eh bien, on s'aperçoit que l'âge est le même, essentiellement. Et on n'a pas été les premiers à le détecter. Plusieurs physiciens ont dit quand même, c'est une sacrée coïncidence. Un univers qui est quand même nettement moins compliqué, mais qui est juste à la frontière d'accélération et décélération, qui est ce qu'on appelle coasting, un peu comme un bateau qui accoste en coupant le moteur près d'un quai. Et il a le même âge. Et on passe ensuite à la nucléosynthèse. Et là, à nouveau, on découvre que ça a déjà été étudié en 98 par un groupe de physiciens indiens qui, sans du tout de lien avec l'antimatière, s'est aperçu que le même univers coasting, ni accélérant ni décélérant, a une nucléosynthèse, une fabrication des éléments légers, notamment du côté du rapport hélium sur hydrogène, lithium, et puis les principaux éléments légers, ça marche, sauf pour le deutérium. Hein, ils se font rapidement critiquer à ce sujet-là. Et nous, donc, on s'aperçoit que peut-être que c'est, d'une part, c'est à nouveau, c'est très très étonnant. Pourquoi un univers qui a une nucléosynthèse qui s'étend sur 35 ans au lieu de 3 minutes dans l'univers standard, c'est-à-dire un facteur 1 million, de l'ordre du million par rapport à la cosmologie standard, un facteur gigantesque, comment peut-il avoir une nucléosynthèse aussi proche? C'est une deuxième branche de la nucléosynthèse. Et si on ne met pas l'antimatière, alors on n'a pas un des éléments essentiels qui est le deutérium, c'est-à-dire l'hydrogène lourd. Mais si on rajoute l'antimatière, on a un peu d'annihilation mineure mais réelle entre matière et antimatière. Et on va aller expliquer le deutérium. Donc du coup, on est très excités parce que évidemment, tout le monde nous avait dit que c'était impossible.
Votre modèle, c'est donc aussi donc un hommage à Dirac, mais c'est donc aussi un modèle au cosmologiste britannique Edward Milne. On est peut-être allé un peu vite sur ça, mais Milne est ce cosmologiste qui introduit cette idée d'un univers vide de masse dès 1933.
Alors Milne n'aimait pas la relativité générale qu'il trouvait trop compliquée, un espace-temps courbe, ça lui plaisait pas. Il essayait de revenir à un espace sinon newtonien, disons minkowskien, c'est-à-dire un espace-temps plat. Et cet espace-temps plat, donc, il se décrit par les transformations de Lorentz classiques sans avoir besoin de la relativité générale. Et de fait, il trouve, ce qui stupéfie le monde à l'époque, dans les années 30, un monde avec un Big Bang vide, quelque part. Hein, donc, ce qui semble complètement contradictoire. C'est-à-dire que tout l'univers part d'une zone infiniment concentrée qu'on pourrait appeler de façon rapide, ponctuelle, et va s'étendre à une vitesse de plus en plus faible au fur et à mesure que l'univers se refroidit, s'étend. Donc la question est de savoir si on a besoin ou pas de la relativité d'Einstein. Nous, on estime qu'on a parfaitement besoin, c'est-à-dire c'est ce qui décrit de façon plus précise que Newton la géométrie de notre espace-temps. Par contre, à grande distance, on pense que c'est la bonne géométrie. Quand on dépasse quelques centaines de millions d'années-lumière, on tombe sur un univers qui devient assez homogène au sens autant de masse positive que de masse négative. Et à notre époque, il y a peu d'énergie en dehors de la masse. Et donc, c'est comme s'il était de masse nulle. Donc, Milne est le deuxième contributeur de cet univers de ses propriétés.
Voilà, on a déjà parlé en première partie d'émission de cette notion majeure de votre modèle. L'antimatière possède une masse gravitationnelle active négative. Cette deuxième notion majeure, c'est celle de la matière et de l'antimatière qui sont symétriques, qui existent autant l'une que l'autre.
La matière, notre matière, et une matière qui serait formée d'antiprotons, d'antineutrons et d'antiélectrons auraient les mêmes propriétés. C'est-à-dire émettrait la même lumière, puisque la lumière est émise par les électrons, les transitions d'électrons atomiques. Ce serait la même chose. Par conséquent, s'il y a quelque part des univers d'antimatière, eh bien ils émettent la même lumière. Et quand nous voyons de la lumière arriver d'un univers, d'une galaxie, nous ne savons pas si c'est de la matière ou de l'antimatière. Nous ne pouvons pas le savoir comme ça, maintenant. Peut-être que plus tard on pourra le savoir, maintenant on ne peut pas le savoir. Alors, je ne sais pas, est-ce que la création de notre univers est une création symétrique ou n'est pas une création symétrique? Moi, je ne suis pas très satisfait par une création qui n'est pas symétrique. J'aime beaucoup mieux avoir des protons d'un côté, des antiprotons de l'autre côté, qui est quelque chose de symétrique, plutôt que d'avoir cette dissymétrie avec les charges positives sur des protons et alors les électrons négatifs autour. Alors, s'il y a une symétrie, c'est que c'est à la base, la création s'est faite à partir d'énergie, créant ici des mondes et des anti-mondes, des univers et des anti-univers. C'est possible, ça. Alors, les anti-univers et les univers, ça va bien, ils peuvent cohabiter, à condition d'être loin l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas de masse d'anti-univers qui se rapproche de masse d'univers, car tout s'annihile à ce moment-là. C'est très profond, formidable, l'annihilation. Alors, s'il existe des mondes d'antimatière, il faut bien que quelque chose empêche les mondes d'antimatière et les mondes de matière de se toucher.
Voilà la voix de Louis Le Prince Ringuet sur l'antimatière dans l'émission Visa pour l'avenir sur la ORTF en 1963. Gabriel Chardin, votre écoute de cette archive.
Alors, on sait un peu plus aujourd'hui par rapport à ce qu'il dit, mais c'est un très bon résumé de la situation. Ça reste un mystère. Alors, par rapport à ce que dit Louis Le Prince Ringuet, qui pour moi a joué un rôle assez essentiel dans ma carrière, parce que ses livres de vulgarisation me passionnaient au lycée. Dans la théorie du Big Bang, où l'on part d'une d'une température énorme, on n'a pas le choix. En fait, on est obligé de partir d'un univers symétrique matière-antimatière. Pourquoi ? Parce que à très haute température, tout le monde croit que masse de particules au sens inertiel égale masse de l'antiparticule au sens inertiel, et donc elles sont produites par le rayonnement thermique de façon aussi facile ou difficile l'une que l'autre, particules et antiparticules. Et comme on est à extrêmement haute température, on fabrique en gros toutes les particules et toutes les antiparticules sans pouvoir le contrôler. L'agitation thermique fabrique de façon symétrique les deux. Donc la question principale est pourquoi on aurait quitté cette symétrie. Dans les années 50 puis 60, un physicien qui s'appelle Alven, puis le Roland Omnes, qui est disparu il y a pas très longtemps, et son groupe avec Jean-Loup Puget et une petite dizaine de jeunes physiciens vont étudier des univers symétriques, et si la gravité est la même, ça ne marche pas. En gros, sauf si les domaines de matière et d'antimatière s'étendent de façon séparée sur des distances gigantesques, c'est-à-dire des milliards d'années-lumière. Mais comment diable aurait-il réussi dans quelques secondes, ou même plutôt quelques dizaines de microsecondes, à se séparer ? Ça resterait un mystère. Donc ça ne marche pas si on n'a pas quelque chose comme la gravité qui assez rapidement les sépare.
Mais pour en venir justement à votre modèle de Dirac-Milne, le fait que matière et antimatière soient symétriques, est-ce que c'est quelque chose de très blasphématoire également, j'imagine, dans la communauté des physiciens ?
Il ne faudrait pas que ce soit trop blasphématoire dans le sens où personne ne sait expliquer vraiment bien, d'une part, la violation de CP, et d'autre part, pourquoi il reste un milliardième à peu près de matière, et apparemment pas du tout d'antimatière. Alors que Dirac-Milne arrive à assez bien décrire à quel moment les deux se séparent, avec quelle taille, disons, d'émulsion, hein, j'emploie le terme, une sorte de mélange... entre des filaments de matière et d'antimatière, et qu'est-ce que ça fait au fil du temps. Et donc on voit aussi au moment où l'univers devient transparent, c'est-à-dire quand il a une température qui fait que les premiers atomes se forment, et le rayonnement va pouvoir se propager quasiment à l'infini, et que les premières structures vont pouvoir se former, on voit quelles sont la masse des bassins de matière et d'antimatière, et ça, par rapport à ce que voit le télescope spatial James Webb, ça permet de comprendre beaucoup mieux la formation extrêmement rapide des structures, la formation extrêmement rapide de trous noirs très massifs, et de contraindre beaucoup plus la formation et notre cosmologie au sortir de la transparence.
Gabriel Chardin, je m'amusais avec le mot blasphématoire, mais comment votre modèle a-t-il été perçu par la communauté scientifique ?
Je pense que ça intéresse quand même les gens. Il est cité, si on regarde Google Scholar, ça doit s'approcher maintenant de 200 citations, ce qui est raisonnable. Je veux dire, c'est même plutôt assez bien quand on a ce genre de citation. Je pense aussi que les gens n'y croient pas, mais sans avoir bien regardé. C'est-à-dire que dans la plupart des grandes transformations, que ça soit vrai ou pas, souvent au départ, les gens procèdent par référence à un modèle existant sans voir tous les détails qui ont mené au modèle. En particulier, une chose qui m'a frappé, c'était que j'ai eu deux événements qui ont été assez importants dans la construction de ce modèle. En 92, je présentais ça dans un groupe de théoriciens, disons, à Heidelberg, et puis l'un d'entre eux est venu me voir et me dit « Mais pourquoi voulez-vous inventer la gravité répulsive ? Elle existe dans la relativité générale. » Et donc, je suis allé voir à quoi ça correspondait, et j'ai trouvé dans le travail de Brandon Carter, qui était à Cambridge à l'époque et qui est venu en France ensuite, à Meudon, des choses qui ressemblaient étonnamment à des particules et des antiparticules. Et ça, c'était connu d'une petite communauté autour de Brandon Carter, mais absolument pas, et c'est encore assez largement le cas, en dehors de cette toute petite communauté. Dans cette communauté, il y a par exemple Alain Riazuelo qui, à l'Institut Astrophysique de Paris, fait des films où on pénètre dans un trou noir, à interstellaire, et quand le trou noir est en rotation, on voit les deux espaces, on voit les deux masses. Le même trou noir a successivement une masse positive d'abord, on traverse un trou de ver et on voit une masse négative, la même masse mais opposée. Et donc, il décrit pour le public et il fait des films sur, en gros, exactement ce que nous étudions. Par contre, ça, la communauté ne l'a pas encore incorporé comme élément essentiel. J'ai donné quasiment la veille de la discussion sur l'expérience, qui était très critiquée, l'expérience GEBAR, qui est concurrente au CERN de l'expérience AlphaG, un séminaire devant Brandon Carter avec le chef de service de l'époque, Bruno Soulier, et puis René Alpin, qui a contribué à la découverte de la gravité répulsive. Et pour qu'on voit quelle était la réaction, et la réaction de Brandon Carter a été assez positive. Et donc, je pense qu'il y a un problème de discussion.
Alors pour conclure, on arrive à la fin de cette discussion, mais comment, Gabriel Chardon, vous aimeriez tester ce modèle, ou comment ces hypothèses pourraient être testées expérimentalement?
Donc maintenant, je pense que AlphaG ayant un résultat apparemment négatif, il faut d'une part qu'ils précisent. Donc ils n'ont pas encore republié, mais ils ont présenté le 11 février au CERN. Ils sont tenus de faire un exposé annuel de là où ils en sont. Et ils accumulent maintenant plus de 10 fois plus vite les événements d'antimatière qu'auparavant, en 2022, quand ils ont pris les données. Donc il faut qu'ils clarifient leur position. Est-ce qu'ils confirment leur résultat ou pas? S'ils le confirment de façon absolue, eh bien le modèle que j'ai décrit est faux. Et il doit y avoir quelque chose de vrai, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses assez extraordinaires, mais d'un autre côté, c'est faux.
Eh bien, dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delboum, et pour prolonger le plaisir, j'invite nos auditeurs à se plonger dans votre ouvrage, Gabriel Chardin, Antimatière et Gravité, vers un nouveau modèle cosmologique qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, on quitte la cosmologie pour la biologie, avec une nouvelle piste contre l'antibiorésistance, c'est la chronique avec science.
Quelle nouvelle piste contre l'antibiorésistance? C'est une capacité naturelle des bactéries et c'est devenu, par notre faute, un problème de santé publique. La surconsommation des antibiotiques, mais aussi les mauvais usages, humains et vétérinaires, ont induit une pression continue sur ces microbes. Chaque multiplication cellulaire, soit toutes les 20 minutes, augmente les chances d'émergence de mutations favorables à leur échappement. À présent, des souches très résistantes, voire totalement résistantes aux antibiotiques apparaissent, et des patients se retrouvent ainsi en impasse thérapeutique. L'objectif de la recherche actuelle n'est plus de trouver un antibiotique miracle, mais de concevoir de nouvelles stratégies pour contrer la capacité naturelle des bactéries à se défendre. Nalini Ramarao est directrice de recherche à INRAE dans l'équipe PIMS, pathogène, immunité et microbiote de l'Institut Michaelis à Jouy-en-Josas. Elle est la co-autrice principale de cette nouvelle étude parue dans Nature Communications.
Alors les bactéries, elles étaient là avant nous et elles seront là après nous. Donc en fait, elles trouveront toujours un moyen de résister et de contourner les pressions qu'on leur fait subir. Trouver une molécule qui n'engendrera jamais de résistance, je pense pas que ça soit techniquement possible. Par contre, on peut jouer sur nos connaissances pour essayer de trouver des voies qui vont limiter l'apparition de cette résistance. J'ai travaillé moi pendant 20 ans sur une bactérie qui s'appelle Bacillus cereus, qui est au départ connue comme un contaminant alimentaire, mais moi j'ai plutôt étudié sa capacité à infecter les nouveau-nés prématurés et donc à contourner le système immunitaire de l'hôte. Et en fait, c'est 20 ans de recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes d'infection qui ont abouti à l'identification de la protéine MFD qui confère aux bactéries leur capacité à résister contre le système immunitaire de l'hôte. Donc en fait, quand on est infecté par une bactérie, notre système immunitaire se met en place et qui consiste en la production de composés toxiques pour la bactérie. Et ces composés toxiques engendrent des mutations sur l'ADN qui normalement engendrent la mort de la bactérie. mais les bactéries ont la capacité de réparer ces lésions grâce à leur protéine MFD, et donc le système immunitaire devient inefficace.
Habituellement, un antibiotique, comme son nom l'indique, s'attaque à la vie, donc à la croissance ou la survie des bactéries. Par exemple, les pénicillines et autres molécules de la famille des bêta-lactamines s'attaquent à la paroi cellulaire, quand d'autres, comme les cyclines ou les macrolides, ciblent la synthèse des protéines bactériennes. Dans tous les cas, ce sont des processus essentiels dont ont besoin toutes les bactéries, les pathogènes, mais aussi les inoffensives. Cette nouvelle étude développe une autre piste. Les bactéries n'ont recours à la protéine MFD qu'en cas de réponse immunitaire de l'hôte, donc uniquement lors d'une infection. Cibler ce processus, c'est ainsi s'attaquer uniquement aux bactéries pathogènes. Et c'est tout l'enjeu. Développer une molécule qui ne s'attaque pas aux microbiotes, aux bonnes bactéries de notre organisme, pour ne pas exercer de pression sur l'ensemble des microbes du monde vivant. À l'aide d'un criblage virtuel qu'on appelle in silico, portant sur 5 millions de composés, les chercheurs et chercheuses ont identifié un candidat prometteur pour bloquer cette protéine, la molécule NM102.
Et on a pu démontrer que cette molécule est capable d'inhiber la croissance des bactéries dans différents modèles in vivo, et en particulier chez la souris, on a fait des modèles pulmonaires et infectés par Klebsiella pneumoniae ou alors Pseudomonas aeruginosa ou Escherichia coli, qui sont des grands problèmes liés à l'antibiorésistance en ce moment. Et on a montré que notre molécule est capable de diminuer la charge bactérienne dans les poumons des souris, et ce, y compris pour des souches qui sont résistantes au traitement actuel. Donc il y a des souches qui ont été isolées chez des patients qui étaient en impasse thérapeutique. On a infecté des souris avec ces souches résistantes aux antibiotiques et on montre que notre molécule est capable de traiter ces infections, donc y compris par des bactéries qui sont résistantes au meropénème, le traitement actuel. Donc on a montré aussi que la molécule n'impacte pas le microbiote intestinal quand on a une infection pulmonaire. Donc ça, c'est une plus-value par rapport aux antibiotiques actuels, c'est que non seulement on traite l'infection, mais ça ne détruit pas tout sur son passage. Et le deuxième résultat majeur, c'est que la protéine en elle-même est aussi responsable de mutations qui vont permettre à la bactérie de résister aux antibiotiques.
Inhiber la protéine MFD permet en plus de limiter l'apparition de résistance aux antibiotiques en désarmant la bactérie face au système immunitaire. Cette nouvelle molécule pourrait donc avoir deux indications, en tant qu'antibiotique seul, mais aussi en association avec d'autres pour entraver ces mécanismes d'adaptation. Pour l'instant, il s'agit de preuves de concept. Il y a encore beaucoup d'étapes pré-réglementaires et réglementaires avant que NM102 puisse potentiellement devenir un médicament. D'abord, des tests de toxicité pour s'assurer de l'innocuité du composé sur les cellules humaines et ensuite, évidemment, la mesure de son efficacité.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Céline Lausanne, Lou Anger, Alexandre Morales, Loïc Dutoit. À la réalisation, Hélène Trigueros. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.